France Inter.
Vous écoutez France Inter, il sera dans quelques petites secondes, 13h. Et voilà, il est 13h, c'est donc l'heure de votre journal. Éric Delvaux, bonjour Éric.
Bonjour Thomas et bonjour à tous. Une édition de 13h qui s'inscrit dans cette matinale spéciale sur France Inter consacrée aux obsèques de François. Nous déroulerons le fil de cette matinée qui a commencé à 10h par une messe sur la place Saint-Pierre de Rome, bondée, une homilie parfois applaudie, suivie par un long silence de la foule quand les cloches ont résonné juste avant le début de la procession pour conduire le pape à la basilique Sainte-Marie Majeure, là où le cercueil vient d'arriver, là où il sera inhumé dans ce quartier populaire et cosmopolite à l'est de Rome. Nous rejoindrons Bruno Duvic en direct de Rome et tous nos envoyés spéciaux. Est-ce que la simplicité réclamée par le pape a été respectée ce matin? Eh bien, nous poserons la question à Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui a assisté ce matin aux funérailles à Rome, au Vatican. Et puis, c'est l'autre photo du jour. Nous verrons que ces funérailles ont donné lieu ce matin à des rencontres informelles entre Donald Trump et le président ukrainien Zelensky. On verra si les deux hommes se sont réconciliés. Dans le reste de l'actualité, le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages dans un accord qui mettrait fin à la guerre. Et la France, qui n'a finalement pas l'intention de rapatrier des djihadistes français détenus en Irak, les propos ce matin de Gérald Darmanin dans La Voix du Nord auraient été mal interprétés. Retenez encore, en rugby, que l'équipe de France féminine disputera cet après-midi la finale du tournoi des Six Nations face à l'Angleterre. Et puis après ce journal, Secret d'Info, votre magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons nous intéresser à un hôpital très discret, fréquenté par le Gotha du spectacle et du monde des affaires, l'hôpital américain de Paris. On va vous expliquer pourquoi la justice s'intéresse à cet établissement et comment il est devenu un outil d'influence pour les grandes fortunes.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, avec des averses sur l'ouest.
Oui, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, ce sera plus calme pour les autres avec des éclaircies, mais aussi des nuages parfois épais.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Un grand soleil aujourd'hui à Rome, au-dessus d'un simple cercueil de bois, du cyprès bardé de zinc. La simplicité des funérailles telles que François l'avait réclamé, la même où il est apparu en public pour la dernière fois, c'était dimanche dernier. Selon le Vatican, 200 000 fidèles assistent à ces funérailles, ont assisté. Des funérailles qui ont commencé à 10h par la messe d'obsèques, suivie 2h30 plus tard, d'une procession en voiture pour conduire François en la basilique Sainte-Marie majeur dans ce quartier populaire de Rome où il sera inhumé. Nous rejoignons Bruno Duvic en direct. Bruno, le cercueil vient d'arriver en cette basilique Sainte-Marie majeure.
Il est dans cette immense nef de Sainte-Marie-Majeure qui a été vidée de ses chaises pour l'occasion, portée par 12 hommes à l'épaule, accompagnée d'une longue procession d'évêques, de cardinaux et de prêtres. Ça y est, François s'approche réellement de cette dernière demeure, près de l'icône de la Vierge, l'icône médiévale qu'il allait saluer, révérer, avant et après chaque voyage. Il est passé dans cette basilique 115, 120 fois au fil de son pontificat. C'est aussi une importance toute particulière qu'il accordait à la Vierge. Et donc voilà, il sera enterré près de cette icône après un moment très particulier que l'on vient de vivre. Ce transfert de la dépouille qui a traversé Rome, qui est passé de la Rome sacrée à la Rome civile, qui a traversé le Tibre, qui est passé devant l'autel de la patrie, le lieu, l'équivalent de notre Arc de Triomphe en Italie, puis qui est passé près du Colisée, près des forums antiques, et qui est arrivé ici à Sainte-Marie-Majeure, où quelques enfants également sont présents dans la nef pour déposer des fleurs. Et l'enterrement, proprement dit, la tombe sera sur la partie gauche de la nef. L'enterrement, proprement dit, devrait être en dehors des caméras. Mais pour l'instant, les images de la télé du Vatican montrent toujours l'intérieur de Sainte-Marie-Majeure et ce cercueil qui approche de sa destination finale.
Merci Bruno Duvic. On viendra vers vous dans quelques minutes refaire un point sur ces funérailles. inhumation donc attendue dans le centre de Rome, en cette basilique Sainte-Marie-Majeure, et non pas dans la crypte située sous la basilique Saint-Pierre, là où reposent la plupart des prédécesseurs de Giorgio Bergoglio. Je vous le disais, il y a foule aujourd'hui à Rome, environ 200 000 personnes, disait le Vatican ce matin. La place Saint-Pierre était bondée, parole de fidèles à présent. Fidèles que vous avez rencontrés, Boris Lemagne, vous êtes en direct, place Saint-Pierre.
Oui, effectivement, il y avait énormément de monde. Ça a commencé dès ce matin, 7h, 8h du matin, où on a vu les gens sortir du métro presque en courant pour essayer de s'approcher le plus possible de cette place Saint-Pierre. Ensuite, quand la messe a commencé, il y a eu évidemment des moments de solennité avec les cloches de la basilique Saint-Pierre qui ont retenti. On a vu des gens se recueillir, prier. Ensuite, il y a eu l'homélie du cardinal Rey qui a rappelé les engagements du pape François contre la guerre, notamment, une homélie, et c'est rare, qui a été applaudie ici par la foule. Et puis enfin, cette papa mobile qui a quitté la place Saint-Pierre il y a quelques minutes. On est passé un petit peu par toutes les émotions, et c'est ce que nous dit Océane, une Française, une Bretonne que nous venons de croiser.
Je suis passée par plusieurs émotions. Il y a eu moments de tristesse, un peu larmes aux yeux, mais en même temps aussi beaucoup de joie de voir juste que on était bien ensemble et que c'était, oui, un moment historique. Bah, j'ai hâte de voir les prochaines célébrations et l'élection du nouveau pape.
Alors actuellement, ici, place Saint-Pierre, c'est en train progressivement de se vider. Et puis on voit, preuve que c'est bien terminé, les touristes et notamment les groupes de touristes, vous savez, avec les drapeaux qui sont en train d'arriver sur cette place pour reprendre une vie un peu plus normale ici.
Les drapeaux de la planète entière. Merci beaucoup Boris Lemagne en duplex donc de cette place Saint-Pierre de Rome avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Je précise que le service de sécurité déployé à Rome aujourd'hui est très très important. La présence de 50 chefs d'État et une dizaine de têtes couronnées n'y est évidemment pas pour rien, avec des unités anti-drones, des tireurs d'élite, sans parler des nombreuses zones d'évacuation sanctuarisées. Une débauche sécuritaire qui contraste donc un peu ce matin avec la simplicité souhaitée par François. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget.
Bonjour.
Évêque de Nanterre, on l'entend, vous êtes au Vatican et vous avez assisté ce matin à cette messe devant le cercueil. François avait voulu un protocole très allégé pour ses funérailles, et au vu de cette matinée, est-ce que sa volonté a bien été respectée de ce point de vue ?
Alors le pape François avait voulu simplifier un peu. En fait, tout s'est passé avec un mélange de simplicité et d'ampleur. Et je crois que c'est ça que tout le monde retiendra. Finalement, c'était un enterrement comme les enterrements que prêtres nous célébrons toutes les semaines. La liturgie de la parole, l'Eucharistie, la prière près du cercueil. Et en même temps, c'était un événement d'une très grande ampleur avec une foule considérable, non seulement sur la place Saint-Pierre, mais sur toute l'avenue qui mène de la place Saint-Pierre jusqu'au château Saint-Ange. Mais
est-ce que ce message de simplicité que le pape a voulu pour l'Église pourra rester durablement, ou est-ce que ça peut disparaître selon la personnalité du prochain pape ?
Chaque personnalité de pape imprime sa marque à l'histoire de l'Église, mais la simplicité fait partie d'abord de l'Évangile. Le pape François ne l'a pas inventé, mais il l'a mise en valeur. Et puis le pape François, ce n'est pas que la simplicité, c'est aussi l'élan missionnaire, le service très attentif des plus pauvres, l'écologie humaine, le respect de la vie de son commencement jusqu'à son terme. Et donc c'est tout ce fruit du ministère du pape François qui va continuer de porter du fruit sous la houlette d'un nouveau pasteur dans quelques semaines, dans quelques jours. L'homélie du cardinal Rey, qui était vraiment très chaleureuse et vigoureuse, a permis de commencer à recueillir un peu du fruit spirituel du pontificat de François.
Cette homélie a parfois été applaudie ce matin pendant la messe. Est-ce que ça vous a surpris et peut-être même choqué ?
Oh non, mais pas du tout. Mais c'est très fréquent quand il y a des messes pontificales. J'ai quantité de souvenirs de messes avec Jean-Paul II ou François, où les fidèles manifestent leur enthousiasme. Et dans mon diocèse, vous savez, les occasions d'entendre des applaudissements sont fréquentes dans des assemblées très mélangées culturellement. On applaudit volontiers, et on faisait comme ça aussi dans les églises de l'Antiquité. Donc ça fait partie de la vivacité d'une assemblée en prière.
Voilà, merci beaucoup Monseigneur Mathieu Rouget en direct du Vatican. Cette église que François a voulu ouverte à tous, même s'il n'appréciait pas certains des chefs d'État qui étaient présents ce matin à ses obsèques. Je pense notamment au président argentin, américain ou hongrois. Les funérailles du pape François retransmises sur toute la planète. À Paris, un écran géant a été installé place Saint-Sulpice devant l'église paroissiale catholique dans le quartier de l'Odéon. Où vous êtes Antoine Geoffin, est-ce que, comme à Rome ce matin, les fidèles se sont déplacés massivement en cette place Saint-Sulpice?
Eh bien, ils étaient une bonne centaine assis à l'avant de cette église à l'intérieur. Cette église qui est la plus grande de Paris, 2500 places à l'entrée, des cierges allumés et le portrait d'un François souriant, bienveillant, bien heureux. Laurence, une habituée de Saint-Sulpice, tenait à être là aujourd'hui pour écouter le cœur de la chapelle Sixtine.
Beaucoup d'émotions et beaucoup de remerciements au Saint-Père pour ce qu'il a fait. Je retiens ce que tout le monde retient, c'est-à-dire son attention aux pauvres, aux démunis et à ceux que personne ne regarde jamais.
Marie-Dominique, elle, rappelle que François s'est éteint le lundi de Pâques, un signe que jamais rien n'est fini, selon cette fidèle. Elle a beaucoup apprécié la cérémonie.
C'était à l'image du pape François, justement, je ne l'ai pas trouvé majestueuse et heureusement, je l'ai trouvé très humble, très simple et surtout très priante. Et c'est ce qu'il aurait voulu.
Adrian, un Sud-Africain en visite à Paris, est bien d'accord, il n'oubliera pas ce pape.
Je me souviendrai de l'humanité de François, sa gentillesse, de son humilité. Qu'on soit là, ensemble, ça montre que les croyants ont encore des valeurs dans un moment de grande perte pour l'Église et l'humanité. Ça donne du courage pour l'avenir. Et cette cérémonie a montré l'unification des Églises.
C'est vrai, sourit, les mains jointes, Eloy, cette Libanaise à Paris, relève par exemple que l'église byzantine a été associée à la cérémonie avec des prises de parole. Comme tous les fidèles que j'ai rencontrés ce matin ici en l'église Saint-Sulpice, elle espère que le successeur de François portera lui aussi ce message d'unité.
Antoine Geoffin en direct de cette église Saint-Sulpice à Paris, église qui d'ailleurs avait fait fonction de cathédrale diocésaine pour les grandes cérémonies après l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était le 15 avril 2019, c'est-à-dire il y a 6 ans pratiquement, jour pour jour. La présence d'une cinquantaine de chefs d'État à ces funérailles rappelle qu'elles sont aussi l'occasion de rencontres diplomatiques informelles. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Eric.
Et comme on l'avait envisagé, c'est un peu l'autre photo du jour. Hein. Il y a bien eu ce matin une rencontre entre les deux présidents ukrainiens et américains.
Oui, rencontre de 15 minutes au sein même de la basilique Saint-Pierre. Les images de cette rencontre, images diffusées par la présidence ukrainienne, sont saisissantes. On y voit Donald Trump et Volodymyr Zelensky en tête à tête, assis à l'écart sur des fauteuils rouges, au pied de colonnes de marbre rose. Entretien quelques minutes avant le début officiel des obsèques. C'est la première entrevue entre les deux hommes depuis leur altercation dans le bureau ovale il y a 2 mois. Ce midi, Kiev qualifie cette réunion de constructive. La Maison-Blanche parle d'un entretien très productif. Vocabulaire encourageant qui contraste avec les invectives échangées ces derniers jours par médias interposés. Donald Trump accusant Volodymyr Zelensky d'empêcher tout accord de paix par ses déclarations incendiaires. Référence au refus net du président ukrainien de céder officiellement la Crimée aux Russes. La Crimée, cette péninsule sur la mer Noire, envahie et annexée par les Russes il y a déjà 11 ans. Les Américains poussent pour qu'un cessez-le-feu soit conclu rapidement, y compris si Kiev doit renoncer à certains territoires. Hypothèse repoussée également par Emmanuel Macron qui s'est joint ce matin quelques minutes aux échanges Trump-Zelensky, tout comme le Premier ministre britannique Keir Starmer, rencontre à 4. Positive, selon un proche d'Emmanuel Macron sur place. D'après la présidence ukrainienne, une nouvelle rencontre entre dirigeants américains et ukrainiens doit être organisée dans la journée à Rome.
Merci Frédéric Saïs. Avant de refermer cette page spéciale, je reviens vers vous Bruno Duvic en direct de Rome, en cette basilique Sainte-Marie-Majeure où la cérémonie continue. C'est dans cette basilique que le pape va être inhumé dans les prochaines minutes.
Ça y est, les caméras sont éteintes, les caméras n'ont plus accès à Sainte-Marie-Majeure, ce qui marque la fin de cette matinée particulière. Le pape va désormais être enterré là où il le souhaitait, dans cette basilique consacrée à la Vierge, sous une plaque funéraire toute simple, blanche, avec une inscription simple, là aussi, Franciscus, écrit de manière claire, à peine visible. Il résidera entre la chapelle des Sforza, dessinée par Michel-Ange, et la chapelle Pauline, où se trouve l'icône de la Vierge qu'il allait si souvent révérer. Juste à côté, il y a un petit confessionnal où l'on peut se confesser en italien et en espagnol, les deux langues qu'il maîtrisait le mieux. S'il lui reste quelque chose sur le cœur, c'est possible.
Merci beaucoup Bruno Duvic en direct de Rome avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Merci également à tous les envoyés spéciaux. Voilà qui referme cette page spéciale entamée depuis 10h ce matin sur France Inter, consacrée donc aux obsèques du pape François.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Le reste de l'actualité se passe par la Réunion où la lutte contre l'épidémie de chikungunya se complique un peu depuis ce matin. Les autorités sanitaires préfèrent retirer sans délai les plus de 65 ans de la campagne de vaccination. Décision prise après 3 événements indésirables graves, dont un décès. Anne Nordanier.
Oui, d'après les premières analyses, le lien de causalité avec le vaccin semble très vraisemblable. Ce sont les mots employés par le centre de crise sanitaire du gouvernement. À La Réunion, 3 personnes de plus de 80 ans qui présentaient des comorbidités ont développé des symptômes similaires à ceux d'une forme grave de chikungunya quelques jours après avoir été vaccinées. Forte fièvre et douleur. L'une en est morte et au vu des examens biologiques, des symptômes et du délai de leur apparition, c'est vraisemblablement à cause du vaccin Ixchiq du laboratoire Valneva. 3 autres cas d'effets indésirables sont en cours d'investigation, 2 à La Réunion et 1 en métropole. Alors, compte tenu de la gravité de ces événements, le ministère de la Santé maintient uniquement la vaccination pour les personnes de 18 à 64 ans avec comorbidité. Le chikungunya transmis par le moustique tigre peut être fatal pour les plus fragiles. 9 personnes en sont déjà mortes à La Réunion. L'épidémie est stabilisée aujourd'hui, mais à un niveau qui reste très haut.
Anne-Laure Danier. Contrairement à ce que l'on avait compris ce matin en lisant le journal La Voix du Nord, qui a publié une interview de Gérald Darmanin, la France, finalement, n'a pas l'intention de rapatrier des djihadistes français détenus en Irak. C'est une mise au point ce matin de l'entourage du ministre de la Justice. Les propos auraient été mal interprétés. Le Hamas se dit désormais prêt à libérer tous les otages dans un accord mettant fin à la guerre. Le mouvement islamiste demande également une trêve de 5 ans dans le cadre d'une solution négociée. Le sport aujourd'hui, ce sera du rugby notamment. Rugby chez les femmes avec la finale cet après-midi du tournoi des Six Nations. L'Angleterre va recevoir la France. Les deux équipes sont invaincues dans ce tournoi. Les Bleus n'ont plus gagné ce tournoi des Six Nations depuis 2018, alors que les Anglaises dominent le rugby européen. Elles sont même invaincues depuis près de 3 ans, toutes compétitions confondues. Fanny Lechevestrier, vous venez d'arriver à Londres. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ce sera difficile pour les Françaises, mais pas impossible.
Bon, on l'espère en tout cas, mais c'est vrai que c'est un défi gigantesque qui attend les Bleus. Vous parliez de 2018, 7 ans donc déjà de défaite contre les Anglaises. Et pour tout vous dire, parmi les Françaises qui vont jouer tout à l'heure, c'est simple, seules 2 d'entre elles ont déjà connu l'ivresse d'une victoire face aux Red Roses. C'était Pauline Bourdon-Sensus et Marine Méninger. Les autres ne connaissent pas cela. Après, on sait, dans un match parfait, les tricolores, avec leur jeu plein de vitesse, sont capables vraiment de battre n'importe quelle équipe. Le souci, c'est que sur ce tournoi, on a pas encore vu le match parfait des Françaises. Voilà pour le défi sportif du jour. Mais Eric, ce match à Twickenham, l'antre du rugby, c'est aussi un superbe test à 4 mois de la Coupe du Monde féminine. Ici même, en Angleterre, on attend de voir si le public répond déjà présent. Twickenham ne sera pas à guichet fermé, contrairement à ce qui avait été un temps en essai. Il y a eu beaucoup de flou autour de la billetterie et aujourd'hui, les derniers chiffres avancent plus de 50 000 spectateurs. Ce serait déjà une grosse réussite.
Fanny Lechevestrier, en direct de Londres, Angleterre-France, à Twickenham, donc pour la finale du tournoi des Six Nations féminin. Coup d'envoi de la rencontre à 17h45. On termine avec le personnage de BD Maliki, du dessinateur Souillon. Eh bien, il arrive, ce personnage Maliki, désormais sur la Nintendo Switch en PC également. Il a vendu 300 000 bandes dessinées, le dessinateur Souillon. Eh bien maintenant, donc, ça devient un jeu vidéo, un jeu de rôle narratif où l'on suit les aventures d'une jeune fille dans un univers fantastique et surnaturel. Victor Vasseur, il aura donc fallu attendre 4 années de travail pour finaliser ce jeu vidéo.
Maliki est né au lycée dans l'esprit de son dessinateur, Souillon, il y a 30 ans. 8 tomes de bande dessinée et 3 romans plus tard.
Si un jour on m'avait dit que je ferais un jeu vidéo, je pense que je l'aurais pas cru.
Le scénario est inédit. Le joueur accompagne Maliki et ses amis dans un affrontement contre Poison, une créature végétale qui menace l'espace-temps.
Ce qui est difficile, c'est de ne pas raconter la même chose et de prendre les gens un petit peu à contre-pied. J'aurais eu horreur de raconter la même chose que dans les BD. Donc, le jeu s'adresse aux gens qui ne connaissent pas la BD. Et ceux qui connaissent la BD vont être en principe très surpris.
L'auteur est parti de zéro en créant un studio indépendant de jeux vidéo en Bretagne, accompagné d'Étienne Jacquemin, grand lecteur de Maliki.
La difficulté, c'est toujours un petit peu la même, c'est de transposer l'univers 2D, ce qui marche en 2D, dans un jeu 3D et de le rendre interactif. Tous les rythmes sont différents, toutes les histoires ne se transposent pas directement, il faut créer des histoires qui peuvent être interactives aussi, donc qui vont évoluer de façon très différente de comment ça se passe dans une BD ou dans un film ou dans une série. Tout est à repenser, mais en étant fidèle à l'univers de base.
Un jeu vidéo qui en appelle d'autres, espère Étienne Jacquemin, heureux des premiers retours des joueurs, notamment aux États-Unis.
Maliki, donc désormais en jeu vidéo. Le temps.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et le ciel sera encore perturbé sur l'ouest cet après-midi.
Oui, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, on a encore un ciel pluvieux avec des averses plus régulières sur la Bretagne et autour de la Garonne. On pourrait d'ailleurs avoir quelques coups de tonnerre sur ce secteur. Pour les autres, c'est toujours une alternance de nuages et d'éclaircies avec quand même une petite évolution cet après-midi parce qu'on peut avoir quelques ondées sur les régions bordant la perturbation entre la Normandie et le Languedoc-Roussillon. Un petit peu plus d'éclaircies entre deux passages nuageux parfois épais en allant vers l'est, et quelques coups de tonnerre attendus sur les Alpes.
Et sur le sud-ouest, les températures baissent fortement.
Oui, ou sous la perturbation, la moyenne cet après-midi ira de 14 à 17 degrés au meilleur de la journée. Hier, c'était plus 19 à 23, pour vous donner une idée. Pour le reste du pays, la moyenne va de 15 à Brest jusqu'à 22 degrés à Nîmes, en passant par 16 à Nantes, 18 à Strasbourg et 20 degrés pour Lyon ou Paris.
Les prévisions de Céline Dacosta.